Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Quand quelque chose nous fait peur, notre glande médulo-surrénale sécrète de l'adrénaline qui provoque une augmentation de la pression artérielle et du flux sanguin, accélère les battements du cœur, ralentit les systèmes immunitaires et digestifs. C'est comme cela que notre corps se prépare à réagir au danger. Dans un second temps, si on a vraiment très peur, la glande cortico-surrénale nous envoie du cortisol qui, lui, stimule, affûte nos sens afin de produire la réaction la plus appropriée au stimulus. Fuir à toutes jambes ou se pétrifier sur place, ça dépend des fois, mais en état d'urgence, le cerveau court-circuite notre part consciente parce qu'il n'est plus temps de réfléchir, d'échafauder des idées, bonnes ou mauvaises, mais d'obéir à des réflexes et sauver sa peau. Pourtant, il arrive aussi qu'un être humain en danger porte assistance à son prochain. Au lieu de suivre son instinct de survie, il se jette sous les balles pour sauver un ami ou un frère. Là aussi, les chercheurs en neurosciences ont une explication. La sérotonine et l'ocytocine, des neurotransmetteurs qui ont pour fonction de tempérer la peur primaire et qui interviennent dans nos attitudes morales. L'empathie, la solidarité et en gros tout ce qui va à l'encontre de la logique individualiste pure et dure. On ne va pas bien sûr résumer le courage ou l'altruisme à un cocktail sérotonine-ocytocine, mais cette part chimique dans toute réaction, c'est peut-être ce qui fait qu'on ne peut jamais savoir à l'avance si dans l'épreuve, le moment venu, nous nous montrerons lâches ou valeureux. D'ailleurs, les gens qui se sont comportés en héros déclarent souvent avoir agi sans réfléchir, ni peser le pour et le contre. Ils ont plutôt été agis, mus par quelque chose de plus profond que leur personnalité consciente habituelle. Ou alors, c'est que, en plus d'être courageux, ils sont aussi pleins d'humilité. En tout cas, ce que l'on entend aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, ce sont des personnes ordinaires qui, le soir du vendredi 13 novembre 2015, pendant les attentats, ont eu spontanément des attitudes d'entraide, ont pris soin de leurs semblables. 5 ans après, donc, se souvenir des histoires du 13 novembre, où l'on entend l'humanité à son meilleur, les gestes forts en dépit de la stupeur, un peu de l'étoffe des héros, révélée par Leïla Djitli.
Alors, je m'appelle Touria et je travaille dans le magasin de bonbons avec mon mari.
Benzekri Nordine, patron de magasin de bonbons qui est mitoyen à la Bonne Bière. Le café, il est au 32 et nous sommes au 34. Donc, vraiment, juste à côté, là où il y a eu l'attentat. Ce soir-là, j'étais derrière ma caisse. Je suis en train de servir une dame qui a acheté des bonbons au Chamallow, exactement. Et j'en ai entendu les tirs. Je me suis approché vers la porte du magasin. Et d'un coup, je vois la poubelle vraiment éjectée un peu par un tir de Kalachnikov.
Sur le coup, ils ne savaient pas d'où ça venait. Quand ils sont passés, c'était une voiture avec les carreaux fumés. Hein. Donc vous ne voyez pas l'intérieur. La voiture s'est arrêtée en ralentissant. Donc le carreau a mi-baissé pour voir où est-ce qu'il y a le plus de monde possible pour pouvoir tuer. Donc, quand ils ont tiré, ils ont tiré la première fois sur la poubelle, et les grosses poubelles vertes, et puis ça a fait un voltige, voilà quoi. L'impact de cette balle de Kalachnikov est vraiment horrible, parce que c'est vraiment une bombe. C'est pas style vous tirez avec un petit revolver. Le bruit est vraiment une bombe. Donc, les gens ont été hyper choqués. Et après, ils ont attaqué la Bonne Bière, dont il y avait beaucoup de monde en terrasse. Un vendredi soir, vous imaginez?
Donc tout le monde sont rentrés directement dans mon magasin en criant « attentat, attentat ». Ils sont rentrés carrément dans la boutique et les bonbons par terre, comme les gens sont rentrés en courant. Donc les boîtes, vous voyez que la porte là, elle est cassée.
Les gens, ils rentraient, ils se bousculaient. En transe, ils pleuraient, ils hurlaient. Ils avaient peur que les bandits suivent mon mari en rentrant dans la boutique. Ils nous ont cassé, le carreau de la porte. Ils nous ont cassé, je crois, une vingtaine ou trentaine de tubos dans lesquels on met les bonbons. Où voulez-vous qu'ils se cachent, ces gens-là? On était les seuls ouverts. McDo, tout le monde était en transe. La Bonne Bière, c'était un massacre. Le petit chinois d'en face, il était fermé. Le boulanger, il a eu des impacts, mais il était fermé. Le kebab, il n'y a que lui qui était ouvert. Il n'y a que lui. Et nous. Donc, les gens, ils se sont cachés là où ils ont pu. C'est tout.
Donc, comme moi, j'ai une porte au fond, donc je me suis précipité vers le fond et j'ai ouvert la porte qui donnait sur la cour, sur une courette de l'immeuble, et je lui ai fait rentrer tout le monde à l'intérieur. Donc, vraiment, on avait peur, on bougeait pas, on parlait pas. Et j'ai appelé ma femme avec mon portable pour qu'elle descende de l'appartement qui se trouvait au-dessus de la boutique au deuxième étage.
Moi, je me trouvais dans l'appart. Et j'ai entendu des booms et des bams et des, enfin, de toutes sortes. On se serait cru en Syrie ou en Irak. Mais croyez-moi, c'était hyper flippant. Et après, il m'a rappelé pour me dire, voilà, il y a du monde qui rentre dans la boutique et on les a montés dans les escaliers.
Donc, il nous a aidés à monter les gens à l'appartement. Une bonne partie qui sont montés, une partie qui sont restés. Quand ils sont arrivés, la police, donc j'ai ouvert la porte de l'immeuble. Et j'ai appelé un policier, ben, c'est là où on a commencé à les sortir deux par deux et les emmener au bout de la rue.
Ils ont essayé un petit peu de calmer un petit peu les gens qui étaient tous en transe, hein, parce que franchement, il y en a qui pleuraient, il y en a qui s'allongeaient par terre, il y avait des cadavres partout, c'était pas joli à voir. Ce qui est formidable, c'est les gens qui reviennent. Ceux qui étaient là, cachés dans la cour, dans les toilettes, dans la réserve de bonbons, dans le bureau, dans les escaliers, dans l'appartement. C'est extraordinaire. Moi, je me suis dit, ils ne reviendront jamais ces gens-là. Ils ont eu peur, ça y est. Non, ils reviennent. Donc, un petit couple nous a offert le petit pot qui est sur le frigo. On le garde. C'est un petit pot de fleurs. Ils sont venus nous remercier de les avoir protégés, de les avoir... Oui. Et puis surtout, ils sont adorables. Ils sont revenus en lui disant, vous savez, on va tout faire sur Internet, sur Twitter, surtout Facebook, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce qu'on s'est dit, regardez, on est tombé sur vous, qui êtes arabes. Vous nous avez protégés. Donc les arabes, ils ne sont pas tous comme ça. Tout le monde n'est pas fou comme ces gens-là. Donc il faut savoir faire la différence.
Il y a une dame qui est venue vraiment nous remercier. Et elle a acheté pour 37 euros de bonbons. Elle m'a dit, c'est même pas pour moi, je vais les donner aux enfants. Vraiment, ça m'a touché.
Vous avez l'impression d'avoir sauvé des gens?
Malgré moi. Honnêtement, malgré moi, parce que c'est la façon dont c'est arrivé d'un coup, vraiment, et ça dirait même pas une minute, tout le monde se retrouvait derrière, au fond de la boutique. Quand je réalise maintenant, bien sûr que parfois j'arrive pas à dormir, on l'a échappé belle, hein. Moi en premier j'aurais pu passer, et là j'ai peur.
Bon, vous allez mieux que monsieur en fait.
J'essaie de garder le sourire, mais j'ai toujours peur quand je vois une voiture, oui, avec les vitres teintées, je vous assure que je flippe. Ça me reste quand même dans la tête. Ces gens-là malgré tout ne gagneront pas. Moi, ça fait 55 ans que je suis en France et je ne tiens pas à faire plaisir à ces gens-là et du jour au lendemain vendre tout et partir. Non, moi je suis là et j'y reste, ainsi que mes enfants et mes petits-enfants.
Mais vous aimez ce pays?
Mais vous rigolez, si je l'aime, j'adore. Vous allez vous moquer de moi. Quand je rentre du Maroc, parce que je suis d'origine marocaine, quand je rentre du Maroc de vacances, mais je suis comme une folle à l'aéroport d'Orly ou de Roissy. J'ai hâte d'aller prendre mon petit café avec mon petit croissant et embrasser le drapeau ou la terre ou n'importe quoi, tellement je suis heureuse de revenir en France. Je pars en vacances dans mon pays, certes, mais je suis follement heureuse de retrouver mes habitudes, ma maison, mes amis. Ah oui, ouais, ouais.
Je m'appelle Mohamed, j'ai 27 ans. Je suis chauffeur VTC pour la société Uber. Ça fait à peu près 6 mois que je suis dans l'activité de VTC. Donc le vendredi 13, j'ai commencé mon service à 14h. Donc tout se passait bien, journée de travail normale. Début de soirée, le travail commence à vraiment être intense. Je ne sais plus exactement quelle heure il était lorsque j'ai entendu les premières détonations. J'ai tout de suite reçu des appels de mes proches et des textos pour me dire de rentrer à la maison parce qu'il se passait beaucoup de choses sur Paris ce soir-là. Donc j'ai entendu la première rafale qu'il y a eu. J'étais sur le 11e, pas très loin de la rue de Charonne. J'étais vraiment à quelques rues, juste à côté. Et donc premier réflexe, c'est que j'ai regardé en l'air, voir si c'était un feu d'artifice ou comme j'entends pas très bien. On a cette impression de se dire c'est un feu d'artifice, mais on a un doute où on se dit mais j'ai jamais entendu un feu d'artifice pareil. C'est quand j'ai baissé la fenêtre que j'ai entendu des cris au loin avec une deuxième rafale et donc avec la peur je suis rentré à la maison et ben en fait j'étais à deux doigts de m'arrêter pour aller prendre un café. En fait, ce qui m'a fait prendre conscience sur le moment, est-ce que si j'aurais pris mon café, j'aurais pu être parmi les victimes ou... Donc le premier réflexe, c'est de rentrer directement à la maison pour suivre ce qui se passe aux informations. Et une fois que j'étais à la maison, j'étais avec ma femme et on a vu tout ce qui se passait sur Paris, au Stade de France, etc. Et suite à ça, plus on regardait les informations et plus on voyait l'horreur qu'il y a eu, j'étais à la maison, comme tout le monde, à pouvoir rien faire, juste à écouter les informations et... Je ressentais ce besoin d'aller proposer mes services, d'aller offrir mon aide aux gens. Comme je savais qu'il y avait des personnes qui étaient restées enfermées pendant des heures, je me suis dit qu'elles devaient avoir soif, qu'avec la peur, elles ont dû transpirer, etc. Et j'avais à peu près une dizaine de packs d'eau que je garde toujours à la maison pour mes clients, etc. Donc je les ai pris avec moi. J'ai chargé tout ça, je suis reparti au Bataclan. C'était un peu compliqué parce que il y avait beaucoup de policiers, d'ambulances, de pompiers, etc. Donc la première chose, c'était de faire attention à surtout pas bloquer les forces de l'ordre et les secours. Et il y avait un système de sécurité, justement pour pas que les gens puissent trop s'approcher. Donc sur le moment, j'ai pas trop réfléchi. C'est vrai que c'était une erreur de ma part parce qu'en fait, il y a un policier municipal qui était là ce soir-là. Et lorsqu'il m'a vu distribuer mes packs d'eau, m'a posé la question « Qui vous a demandé de le faire ?» Donc je lui ai dit personne, j'ai des packs d'eau dans la voiture, je propose mon aide gratuitement. Mais j'ai senti qu'il me regardait d'un air assez méfiant et que pour lui c'était pas normal que je vienne distribuer des packs d'eau et que je propose mon aide gratuitement en fait. Sur le moment j'étais un peu gêné parce que c'était vraiment de bon cœur ce que je faisais. Donc il y avait le chef de la police qui était là à ce moment-là, qui a entendu la conversation avec le policier municipal. Donc il est intervenu et il m'a confié une personne qui était en otage. Et il m'a demandé si je pouvais le raccompagner parce que depuis tout à l'heure ce monsieur était là et comme il habitait loin, il y avait personne qui voulait le raccompagner chez lui. Donc je lui ai dit, il y a pas de problème, moi je suis là pour ça justement. S'il y a personne qui va vous emmener, je vais vous emmener gratuitement ce soir et vous allez pouvoir retrouver votre famille. Quand j'ai récupéré la personne pour la déposer chez elle, ce qui m'a vraiment touché, c'est que le policier est venu me serrer la main pour me remercier et me dire que c'est vraiment bien ce que vous faites et ça fait plaisir. Avec ce qui s'était passé ce soir-là, et malgré ça, on m'a pas regardé avec un air de... Je sais pas comment je pourrais dire ça. Il m'a pas regardé avec de la méfiance, mais plus comme une personne qui est là pour aider et... C'est ce qui m'a fait plaisir en fait. Parce que je suis un maghrébin, j'ai la peau mate, je suis jeune. Souvent, on me regarde d'un air un peu méfiant. Et depuis les attentats, c'est encore plus, on va dire. On se dit que c'est un maghrébin, il est forcément musulman, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui vous dévisagent, qui vous regardent avec beaucoup de... Bon, je peux le comprendre. Les personnes qui sont méfiantes, c'est tout à fait normal, parce que je suis moi-même méfiant. Par contre... Je regarde avec un œil discret pour éviter de mettre une personne mal à l'aise ou qu'elle soit de n'importe quelle religion. Et des fois, j'ai vraiment envie de me justifier quand j'ai un sac avec moi ou que je suis dans les transports. J'ai envie de me justifier en disant « Vous inquiétez pas, dans mon sac, il y a mes affaires de sport » ou pour que les personnes puissent voyager sans avoir cette peur ou sans avoir ce regard qui pèse sur vous. J'ai vu qu'il y avait des taxis qui avaient éteint les compteurs et je me suis dit c'est le moment d'être solidaire, de pouvoir aller aider les gens, les raccompagner chez eux pour qu'ils soient auprès de leur famille. J'ai pu récupérer 5 personnes qui étaient enfermées dans un restaurant, dans une cave, pendant plus de 4 heures. Donc je leur ai proposé de la raccompagner. Ils étaient agréablement surpris parce qu'ils ne pensaient pas que j'allais les déposer gratuitement. Donc lorsqu'ils sont montés dans la voiture, je leur ai dit que ce soir je facturais personne. Ils ont été très surpris parce qu'ils avaient du mal à y croire. Ils se sont dit, depuis tout à l'heure, on attend, on cherche un taxi, il n'y a personne qui veut nous prendre. Et vous arrivez devant nous et vous nous dites, allez hop, je vous emmène. Donc je les ai raccompagnés, ils ont insisté pour me donner un petit quelque chose et j'ai insisté sur le fait que c'était pour rendre service. Ensuite, je me suis redirigé vers le Bataclan, j'ai récupéré encore 2-3 personnes. Ça m'est arrivé d'être tombé sur des personnes qui sortaient de soirée, qui avaient un petit coup au nez. Et je leur ai dit que j'étais là pour rendre service aux personnes qui étaient bloquées dans des restaurants, les personnes qui avaient vécu vraiment les atrocités du 13. Ils m'ont dit bravo, c'est bien ce que vous faites. Donc je suis resté vraiment toute la nuit éveillé, en déposant les personnes, en faisant des allers-retours. La dernière personne que j'ai récupérée, que je devais déposer aux alentours de Fontainebleau, donc à peu près 60 km pour l'aller et 60 km pour le retour, elle m'a raconté qu'ils étaient enfermés au Bataclan, avec plusieurs personnes qui étaient enfermées dans une salle. Ils avaient réussi à barricader les portes avec ce qu'ils pouvaient, hein, des tables, des chaises, pour que les terroristes ne puissent pas rentrer. Il m'a dit que le terroriste essayait à plusieurs reprises de pousser la porte pour rentrer, et qu'il n'avait pas réussi, et que sa dernière tentative, c'était il est revenu voir les otages en leur disant « Je fais partie du raid, c'est la police, laissez-moi entrer, je suis là pour vous aider. » Et c'est à ce moment-là où le monsieur m'a dit que si quelqu'un dans la salle aurait cru à ce qu'il a dit et aurait ouvert la porte, il m'a dit « Ce soir, je ne serais pas en train de parler avec vous et je ne serais pas là pour vous raconter ça. » On s'est serré une première fois dans les bras. Il était ému et moi aussi j'étais ému. On devait se laisser les coordonnées, mais il était tellement pressé de partir et moi j'ai commencé vraiment à avoir le sommeil qui m'envahit. On s'est resserré dans les bras une deuxième fois et il est parti en courant pour retrouver sa femme. Le voir courir pour retrouver sa femme, ce genre de choses, en fait, on a l'habitude de le voir dans les films. On n'a pas l'habitude de voir ça en vrai. Et je suis rentré chez moi avec la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien ce soir-là. C'est une petite trace qui restera dans les cœurs des gens et ça m'a permis aussi de faire passer un petit message en disant à ces quelques personnes que j'ai raccompagnées gratuitement, qui ont vécu la chose, ne faites pas d'amalgame. Et si je pouvais aider le monde entier, j'aiderais le monde entier.
Rodolphe Paquin, le propriétaire du restaurant Le Repère de Cartouche au 99 rue Hamelot. On est à 300 mètres à peu près des sorties de secours du Bataclan. Et quand le problème est arrivé, les gens sont sortis et se sont sauvés par comme ils ont pu. Ils se sont retrouvés dans la rue Hamelot, juste devant le restaurant. Et dont la première personne qui est rentrée dans le restaurant, complètement hébétée, choquée par ce qui s'était passé et qui a fini par faire une phrase qu'on a pu comprendre, qui était « Il y a eu une fusillade au Bataclan ». Et cette personne, 5 minutes après, était suivie par une deuxième personne en sang parce qu'elle avait pris une balle de quelque chose ou je ne sais pas quoi. Et puis après, d'autres personnes qui se sont réfugiées dans le restaurant. Et quand j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose de grave au Bataclan, et puis quand les pompiers ont demandé un coup de main, on n'a pas cherché à comprendre, on a arrêté la cuisine. J'ai emmené toute la brigade de cuisine avec moi pour débarrasser les tables et les chaises de la salle. J'y vais à toute la brigade, les gars, faut un coup de main. On est sortis, on n'a même pas cherché, je ne sais pas si on a compris. On a directement foncé dans le tas et on a été donné un petit coup de main pour gérer.
Donc ici, là, dans la salle de restaurant, vous avez tout bougé?
On a tout débarrassé. Mmh. On a débarrassé toute la salle, les tables, les chaises, on a tout rangé, on a tout poussé où on pouvait. Et tout, on était assis par terre, terrifiés, parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait précisément. On avait, dans le restaurant, une brigade de gens de la sécurité. Alors j'ai dit à tout le monde, vous inquiétez pas, maintenant on est tranquille. Vers 1h du matin, les pompiers sont partis en disant il n'y a plus de cas graves. Il y avait juste des gens qui étaient un peu sonnés parce qu'il s'était passé. La police ne voulait pas nous laisser sortir dans la rue, alors nous on est restés dans le restaurant. Puis on est resté jusqu'à 2h30 du matin dans le restaurant, tranquille, on a attendu que ça se passe. Comme je dis, hop, allez, buvez un coup, fumez une clope. J'ai raconté ma vie, j'ai raconté des histoires, j'ai raconté des conneries, j'ai dû dire j'ai raconté des histoires de cul, mais et puis on était tous là dans le restaurant assis. Il y a une demoiselle très sympathique qui est revenue manger le lendemain et qui m'a dit comme ça qu'elle était là hier. Je lui dis ah bon ? Mais j'ai fait vous étiez où ? Elle me fait, mais vous vous rappelez pas, on a discuté une heure dans les escaliers ensemble. J'avais pas le souvenir de l'avoir vue. Avec elle, je sais même pas ce qu'on a dit. Je sais pas. J'étais pas là pour discuter avec des gens, j'étais là pour essayer de rassurer deux, trois personnes qui étaient dans le restaurant, les calmer et que ça se passe bien tranquillement. Mais j'étais pas en train de draguer. J'étais pas en mode tu vas bien, ma belle. Et puis après, il y a le monsieur qui est venu manger parce que sa fille habite dans le passage. Quand il a vu l'histoire, il a dit le chef s'est comporté comme un héros. Et moi, j'ai répondu, je me suis dit non, juste comporté comme un citoyen normal. Non, ce que j'ai, après, j'ai dit comme ça un petit peu, faut pas se calmer quand même. J'ai juste donné un petit coup de main. J'ai pas non plus. J'ai pas sauvé la planète. Hein. Ce qui serait bien, c'est que chaque personne réagisse de la même façon que moi, sachant qu'on a su qu'il y avait des gens qui n'avaient pas donné un joli coup de main. Et j'ai eu dire qu'il y a des gens qui n'ont pas ouvert leur porte, qui ont fermé. Bon, nous, on a donné un coup de main comme on a pu, mais après, j'ai rien fait de héroïque. J'ai juste comporté comme je pense que tout le monde devrait se comporter quand il y a un petit coup de main donné.
Je m'appelle Arnaud, j'ai 26 ans et je suis interne en médecine dans le service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis. Donc moi j'étais au Carillon le vendredi 13, un bar tenu d'ailleurs par un interne de médecine et dans lequel les internes et les médecins de l'hôpital Saint-Louis ont l'habitude de se rendre. Donc après la journée de travail, directement en sortant de l'hôpital, on s'est retrouvés vers 19h30. On était une douzaine de personnes du service. On a choisi une table où on avait de la place, au fond du bar. On a bu quelques verres. Et petit à petit, les gens partaient pour aller faire autre chose de la soirée. Et on est restés quelques-uns. On était quatre à rester dans le bar jusqu'à 21h, 21h15. Je pense qu'on commençait à être un petit peu éméché sans trop l'être. Content d'être là. Et on a commencé à entendre les premiers bruits de pétards qui nous ont vraiment paru être des bruits de pétards qui ont grossi, se sont rapprochés. Et ce qui nous semblait être des pétards nous a ensuite beaucoup plus inquiétés quand les gens qui étaient à l'avant du bar, que nous on n'avait aucune vision sur la rue, sont venus vers nous en criant, hurlant et en se jetant sous les tables. Les bruits se sont rapprochés. Je pense qu'on a eu tous peur. Il y avait un silence dans le bar. Quelqu'un a pensé à éteindre la musique. Et ensuite, les bruits se sont arrêtés. Les gens essayaient de se lever, les gens disaient « Est-ce que tu es là ?» On a tous compris que ce qui était passé était grave jusqu'au moment où on s'est levé, aventuré à l'avant du bar et on a vu exactement l'ampleur du massacre avec la vitrine criblée de balles, les gens par terre qui hurlaient de douleur, le sang, les corps, enfin des choses qui sont difficiles à s'imaginer même maintenant. Là, on était un petit peu tout seul, totalement paniqués. On était tous beaucoup d'étudiants en médecine ou d'internes, donc on a essayé d'aider comme on pouvait, même si je pense qu'on n'aidait pas grand-chose. Tout le monde était là pour s'aider entre nous, aller voir les gens les plus mal, effectuer des massages cardiaques sur des gens probablement déjà morts, comprimer des plaies, aider, soutenir, installer les gens et voir si tout le monde allait bien. Et petit à petit, les secours sont arrivés en très très grand nombre. Tout de suite, on a eu des médicaments, de l'oxygène, on a pu évacuer dans un temps qui a forcément été long, parce que une scène de guerre dans Paris, c'est difficile à gérer, alors 5 ou 6, comme ça a été le cas, Je pense que ça a duré plus d'une heure, une heure et demie, allongé. Les derniers blessés graves ont été évacués 2 heures après, à peu près, vers 23h30, minuit. Et comme il manquait un petit peu de personnel pour évacuer les gens un peu moins gravement touchés, avec un de mes co-internes, on a été dépêché dans un camion de pompiers qui allait à l'hôpital. Une fois arrivé là-bas, personne n'était là pour venir nous raccompagner, donc on est rentré en métro. Scène totalement irréelle, avec du sang sur les vêtements, dans un quartier qui est différent, donc les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe, on n'est probablement pas en lien, et puis oui, tout seul, pendant 15-20 minutes, interminable, tout seul.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Noureddine et Touria, à Mohamed, Rodolphe, Arnaud, Eric, Delphine et Grégoire. Notre attaché de production, c'est Mélissa Foust, notre stagiaire, François Bréus. Dans les mois qui ont suivi la première diffusion de cette émission, le 21 décembre 2015, Noureddine et Touria ont fermé leur magasin de bonbons. La rue du Faubourg du Temple, nous a dit Touria, était comme morte. Et puis, la boutique restait trop associée aux souvenirs de cette soirée. Son mari, depuis, a toujours des insomnies. Dès qu'il entend du bruit, il est inquiet. Rodolphe Paquin, le gérant du restaurant Le Repère de Cartouche, n'avait pas beaucoup de temps pour nous répondre quand on lui a demandé de ses nouvelles. De toute façon, il trouve qu'il en a assez parlé. Il essaye de tourner la page, nous a-t-il dit. Et il est très occupé à faire face à la crise sanitaire, à remettre en place la vente à emporter dans son restaurant. Quant à Mohamed et Arnaud, nous n'avons pas réussi à leur parler récemment. Nous savons seulement que quelques semaines après les événements du 13 novembre, Mohamed parlait de faire une formation en permaculture, quitter Paris et le métier de chauffeur VTC. S'il nous entend, nous lui adressons tous nos vœux de réussite, évidemment.